L'Apocalypse, et là on en est arrivé à la quatrième. C'est pas toujours des textes faciles à aborder, mais ils sont là. Et ils sont là pour nous tous, pour l'Église depuis son origine, jusqu'à maintenant et encore demain, pour tout le temps, où effectivement, tant que le Seigneur n'est pas revenu. Donc après une Église qui avait besoin de discipline, l'Église de Pergame, eh bien la quatrième lettre s'adresse à une Église malgré tout ce qu'elle fait, une église pleine de qualité, et malgré cela, elle est pleine de compromis. C'est l'église de Thyatire. Et on voit bien dans ces églises-là l'œuvre de Satan. Il s'y prend de différentes manières pour faire tomber l'église, et parfois il s'y prend par la violence, de l'opposition extérieure, mais parfois il cherche à faire tomber l'église à l'intérieur. Par la débauche. Ça a été le cas pour Pergame, c'est encore le cas pour Thyatire. Et donc, c'est la plus longue des sept lettres, l'église de Thyatire. Une église qui ne connaissait pas la persécution. Et un commentateur a écrit ceci. À Thyatire, la menace ne venait pas de l'extérieur de l'église, de la persécution, du culte païen ou impérial. Elle venait de l'intérieur de l'église, de ceux qui, dans l'église, proposaient de prendre vis-à-vis du monde la plus dangereuse de toutes les attitudes. Une attitude de compromis. Je vais prier avant de lire le texte. Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole, parce que Seigneur, elle nous suffit, et bien sûr toi, Seigneur, tu es au centre, et nous te demandons que ta parole nous forme, Seigneur, de plus en plus à ton image, individuellement et aussi en Église, Seigneur, pour te refléter dans ce monde, Seigneur. Être plus conforme à ton image et te refléter dans ce monde pour que d'autres soient attirés vers toi. Au nom de Jésus, ouvre-nous le cœur et l'intelligence. Amen. Donc Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. On peut déduire de ce texte, effectivement, cette vérité que, pour avoir la victoire sur nos ennemis, restons fidèles au Seigneur sans compromis. Pour avoir la victoire sur nos ennemis, restons fidèles au Seigneur sans compromis. Pour cela, je vous propose de voir en trois points. Étudions premièrement les conséquences de l'infidélité et de ses compromis. Quelles sont les conséquences de l'infidélité et de ses compromis? Deuxièmement, nous verrons comment rester fidèle au Seigneur. Et troisièmement, nous verrons les fruits de cette fidélité. Quels sont les fruits de cette fidélité? Alors, l'église de Thyatire, quel est son contexte? Quel était son contexte à l'époque? Thyatire, c'était la plus petite ville des sept villes citées. Et elle comptait une population qui était très mélangée. Et les religions même, il y avait beaucoup de religions, beaucoup de cultes, les religions se mêlaient entre elles et même se mélangeaient entre elles. Et on va voir que c'était ça le principal problème. La ville était connue pour son commerce. Thyatire, cette ville, elle est citée pour Lydie, qui était une marchande de pourpre, dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 14. Une marchande de pourpre de Thyatire. C'était une marchande d'étoffe teinte en pourpre. Elle était croyante, Lydie. Je pourrais vous donner les références après, il y en aurait quelques-unes, hein, si vous voulez les retenir. Alors, la pourpre, c'était effectivement l'une des industries les plus prospères de la ville de Thyatire. Donc, beaucoup de commerce, beaucoup d'argent qui était brassé. Mais, il y avait une contrainte commerciale qui poussait les artisans de Thyatire à appartenir à une corporation. Un genre de syndicat, si vous voulez. Pour pouvoir tenir économiquement, il fallait se joindre à cette corporation. Et aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est encore le cas, hein, on parle de coopérative, on parle de... voilà. Travail et religion y étaient étroitement mélangés. Et ça fait penser... travail et religion, ça fait penser, vous savez, au sein dans l'Église catholique, aux patrons. Vous savez, ils ont des patrons, patrons des artisans, patrons de certains métiers. Le patron des chaudronniers. Les chrétiens, donc, de l'époque, ils étaient mis devant un choix. Ils étaient mis devant le choix de participer ou non au banquet de ces syndicats, parce qu'ils organisaient des banquets, ces syndicats. Et dans ces banquets, eh bien, travail et religion, il y avait des viandes sacrifiées aux idoles. Et dans la continuité des choses, eh bien, ces banquets se terminaient souvent par des orgies. Et il n'y avait qu'un pas pour le chrétien d'y tomber. Avec pour excuse, eh bien, les affaires sont les affaires, il faut bien vivre. Alors voyons les conséquences de l'infidélité. Quelles sont les conséquences de l'infidélité et les conséquences de faire des compromis? Alors le Seigneur, il fait l'éloge de l'église de Thyatire. Et quel éloge? Je vais y revenir après. Beaucoup de qualités. Et après les qualités, il annonce « mais ce que j'ai contre toi ». Eh bien, le Seigneur annonce son problème à cette église. Son problème, il était lié à une certaine Jézabel, qui se disait prophétesse. Et aussi tous ceux qui se sont laissés séduire par sa doctrine et entraînés dans la débauche avec elle. Alors, Jézabel, c'est un prénom qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Quand on pense Jézabel, c'est pas le modèle de la femme qu'on aimerait, voilà. C'est vraiment le... Jézabel était une reine cruelle et païenne. Elle était même accusée de prostitution et de sorcellerie. Elle a entraîné son mari, le roi Akab, et aussi tout le peuple dans l'idolâtrie. Quand la tête est mauvaise, eh bien, le peuple suit. Et elle tenta d'abolir le culte de l'Éternel en persécutant les prophètes pour le remplacer par le culte de ses idoles. Alors, si vous voulez les références, c'est en 1 roi, chapitre 16, chapitre 21, et en 2 rois, chapitre 9. Ici, Jézabel, eh bien, elle peut désigner une femme qui se disait prophétesse, elle peut aussi désigner symboliquement un groupe de prophètes. Un groupe d'enseignants qui se disait prophètes, pardon. Et qui prétendait qu'au nom de la liberté chrétienne, eh bien, on pouvait pratiquer la débauche et l'idolâtrie dans l'Église sans commettre de péché. Au nom de la liberté chrétienne. Et ça nous rappelle la doctrine de Balaam et celle des Nicolaïtes. Vous vous rappelez dans l'Église de Pergame. Mais là, le mal a fait un pas plus grand. À l'Église de Thyatire, il était question de fausses doctrines qui étaient enseignées. Et donc par là même des faux docteurs. Ici, il est question de faux prophètes, des prophètes. Ce sont des faux prophètes qui entraînaient les croyants dans la débauche, dans les péchés. Et c'est d'autant plus grave qu'un prophète, la définition d'un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Jézabel prétendait être prophétesse. Alors, ses paroles avaient du poids dans l'Église. Et beaucoup l'ont suivi, beaucoup se sont laissés séduire par manque de discernement. Gros problème, manque de discernement. Et les faux prophètes, eh bien, ils étaient passibles de mort. En Deutéronome 18, verset 20, la sanction était la mort, parce que c'était grave. Alors, cette Jézabel, eh bien, elle voulait régner, elle voulait dominer sur l'Église, comme la reine Jézabel de l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'elle s'y prenait? Séduction. Elle introduisit dans l'Église une sorte de, alors je vais employer un mot, syncrétisme pagano-chrétien. Alors vous savez ce que c'est. En fait, le syncrétisme, c'est un mélange. On y mélangeait le culte de l'Éternel avec tout ce qu'il y a de vrai, enfin tout ce qui est, voilà. On y mélangeait le culte de l'Éternel avec le culte des idoles. Avec le culte des idoles. Avec la participation aux cérémonies païennes. Alors, c'était déjà le cas des Samaritains. Les Samaritains, ils mélangeaient le culte de l'Éternel avec les cultes des idoles. Mais aujourd'hui, on peut aussi comparer, et pas qu'aujourd'hui, avec ce que fait l'Église catholique. Hier, j'étais aux funérailles de ma grand-mère. Et, eh bien, vous entendez l'Évangile, vous entendez le Notre Père, vous entendez des prières à Jésus. Et, à côté, vous entendez les prières faites à Marie. Il y a la prière pour les morts. Donc c'est un mélange des deux. Et je vous avoue que j'étais irrité au fond de moi. Parce que ça voilait la vérité aux gens qui avaient besoin de consolation ici. Et notamment, d'autant plus qu'ils sont de ma famille. Mais voilà, ces gens faisaient leur travail. Et alors, donc rien de nouveau. Mélange de culte chrétien et de culte païen. Le syncrétisme de Jézabel, eh bien, c'était très séduisant pour les commerçants, pour les artisans. Et les marchands de Thyatire. En fait, ils étaient tiraillés entre leur fidélité au Christ et leur besoin de travailler pour vivre. Ils avaient des choix à faire. Et Jézabel, eh bien, elle en arrangeait plus d'un. Jézabel les délivrait de leur cas de conscience par sa doctrine. En leur disant, en quelque sorte, ben, vous pouvez tranquillement participer aux fêtes de vos corporations. Un chrétien est un homme libre. Les idoles ne sont rien. Et l'âme n'est pas affectée ni souillée par ce que peut vivre le corps. Le corps n'est pas important. Et c'était une mauvaise interprétation. Les idoles ne sont rien, oui. C'était une mauvaise interprétation, notamment de 1 Corinthiens 8, verset 4, où l'apôtre Paul dit « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Amen. Et cette prophétesse, eh bien, elle a tordu ce sens de l'Écriture. Alors, Jézabel leur proposait donc sur sa doctrine et l'expression « les profondeurs de Satan », eh bien voilà ce que leur proposait Jézabel. Sur le plan des connaissances, Jézabel leur proposait de connaître, d'explorer les profondeurs de Satan, verset 24. Et il y avait certains chrétiens de l'époque qui pensaient qu'en faisant cela, ils deviendraient plus forts. Il deviendrait invulnérable en allant chercher plus dans les détails les profondeurs de Satan, ses ruses. Alors la Bible nous en parle, hein, et ça nous suffit. Alors aujourd'hui, certains chrétiens pensent qu'il n'y a pas de mal à fêter Halloween. Qu'est-ce qu'il y a comme risque? Ou qu'il n'y a pas de mal à regarder un film d'horreur ou un film avec du sexe? Certains jeunes, parfois, voilà, peut-être vous avez été confrontés, hein, avec certains jeunes, peut-être vos propres enfants qui aiment bien regarder ce genre de film, et vous n'êtes pas d'accord, et comment leur expliquer? Eh bien, je vous propose un test imparable à partager avec eux. Si vous ou vos enfants vous posez la question de savoir si c'est bien ou mal de regarder de tels films, pour un chrétien qui se dit libre, eh bien, un test imparable. Est-ce que tu inviterais le Seigneur Jésus à t'asseoir à côté de toi pour regarder ce film? Dites ça à vos ados, proposez-leur ce test et attendez leur réponse. Alors le problème, c'est lorsque l'esprit du monde pénètre dans l'Église, alors que c'est l'Église qui devrait influencer le monde. C'est le contraire, c'est l'Esprit de Dieu qui devrait rentrer dans le monde. Et pour être plus fort, amen, eh bien pour être plus fort, nous devrions rechercher les profondeurs de Dieu. Et pas celle de Satan. Deux versets qui l'expriment bien. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jérémie 29, verset 13. L'Éternel qui parle, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu nous invite à le chercher avec vérité, avec la promesse qu'on le trouvera si on le cherche. C'est pas Satan qu'il faut chercher. Pour le convaincre, on a besoin de Dieu, de le connaître. Alors le reproche que le Seigneur adresse à l'église de Thyatire, malgré toutes ses qualités, parce qu'elle en a, eh bien c'est qu'elle a laissé faire. Là encore, elle a laissé faire. Elle a laissé entrer les compromis dans l'église. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, le Seigneur intervient lui-même. Et comme au début de chacune des lettres, à chaque église, eh bien, le Seigneur se présente d'une telle façon, d'une façon qui répond aux besoins de l'église. D'une façon, une description de lui-même adaptée à la situation pour la pousser à se repentir. Comment est-ce qu'il se décrit ici, verset 18? Il se décrit comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Il se présente aussi comme celui qui sonde les reins et les cœurs, verset 23. Alors nous, moi je vois pas ce qu'il y a dans votre cœur. Personne ne voit réellement les cœurs, sauf le Seigneur. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Vous avez remarqué l'emphase, l'insistance? Une flamme, elle est forcément de feu. Une flamme de feu. Une flamme, elle chauffe, mais aussi la flamme, elle éclaire. Elle éclaire. Non seulement le Seigneur voit parfaitement dans les cœurs, mais aussi il éclaire, il met en évidence les intentions cachées du cœur et les mauvaises œuvres. Il y aura aussi les bonnes, ça je vais le voir tout à l'heure, avec cette lumière. En tout cas, personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Si on peut tromper les hommes, on ne trompe pas le Seigneur. Et là, il y a un jugement qui est annoncé. Alors peut-être en lisant cette lettre, et comme d'autres aussi, on peut se demander, mais où est la grâce là? C'est vrai, où est l'évangile de la grâce? Où est la grâce? Eh bien, elle y est. Elle est bien présente, cette grâce. C'est justement parce que le Seigneur veut faire grâce qu'il donne le temps de se repentir. Il nous donne à jamais le temps, il nous donne toujours le temps de nous repentir lorsque nous en avons besoin. Et il est patient. Quelle grâce, quelle grâce. Le Seigneur ne punit jamais de gaieté de cœur, je crois. Parfois il punit, oui, parce que effectivement la personne n'a pas voulu se repentir. Il a laissé à Jézabel le temps de se repentir, il le dit. Et Jézabel et ses enfants. Et voilà la preuve de son amour pour tous, même pour des personnes comme Jézabel, à qui il donne une possibilité de se repentir. Mais la laisser faire dans l'Église, les églises qui sont concernées, eh bien, les laisser faire, ce qu'a fait l'Église de Thyatire, c'est pas de l'amour. Parce que cela aboutit à un jugement contre elle. À la longue, eh bien, il y a des conséquences à se laisser séduire et à ne pas se repentir. Je dis bien à la longue, hein. Et quelle est à la longue cette conséquence de ne pas revenir? Eh bien, c'est de s'endurcir. C'est l'endurcissement qui est la conséquence. Il y a deux conséquences, on peut dire. Il y a l'endurcissement et aussi, eh bien, de plus en plus, quelqu'un qui se laisse dériver, qui ne revient pas, eh bien, il n'a plus le discernement pour discerner le bien et le mal, pour discerner le vrai et le faux. Et la troisième conséquence, eh bien, c'est la conséquence ultime, c'est le jugement final que Jésus lui-même annonce. Et dans sa description, les pieds semblables à de l'airain ardent, ça rappelle le jugement. Regardez encore une autre emphase au verset 23, par rapport à ce jugement. Je ferai mourir de mort ces enfants. Mourir de mort, une insistance. On voit sa colère divine contre de tels faux prophètes. Oui, parce que c'est grave, ce sont des personnes qui prétendent parler au nom de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir et que l'Église a laissé faire. Alors, eh bien, quel est le jugement annoncé? C'est que le lit de plaisir de Jézabel va devenir son lit de douleur. À moins qu'elle ne se repente. Regardez encore, le Seigneur l'appelle encore à se repentir. Quelle patience, quel amour chez le Seigneur. Et c'est par de tels jugements qu'on connaît le Seigneur. C'est par de tels jugements que les églises se rendront compte que Dieu voit tout. qui sondent les reins et les cœurs. Les reins et les cœurs, ça veut dire nos émotions, notre intelligence, nos sentiments, nos motivations. Alors oui, annonce d'un jugement. Ici, je précise, il ne s'agit pas du jugement dernier. Parce que le Seigneur nous encourage à lui rester fidèle jusqu'à ce qu'il vienne, verset 25, et jusqu'à la fin, verset 26. C'est pas le jugement dernier, ce sont des avertissements pour toute l'Église, à tout âge, en tout lieu, à toute époque, contre le danger de se laisser séduire. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque où la séduction, elle est bien présente. Et nous avons besoin de discernement, justement, pour discerner le vrai du faux. Alors justement, vient la question, mon deuxième point ici, comment rester fidèle au Seigneur jusqu'au bout? Comment lui rester fidèle? Déjà, c'est le Seigneur lui-même qui nous le demande. Et il ne nous demande jamais quelque chose au-delà de notre portée, au-delà de nos forces. Alors c'est possible. Le Seigneur, avec ses yeux comme des flammes de feu, non seulement il voit le mal, mais il voit aussi le bien. Il voit aussi les bonnes œuvres. Pour l'église de Thyatire et pour son église de par le monde. Il connaît très précisément tout ce que chaque église fait pour lui. Quelles étaient les œuvres de l'église de Thyatire? Le verset 19, eh bien, ses œuvres, c'était son amour. Alors je lis le verset 19, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais quel éloge! À côté de la critique, quel éloge! L'église de Thyatire, c'est le modèle d'une église qui ne stagne pas. C'est même une église en progression, dont les dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Et ça devrait être le cas de chaque église. Contrairement à l'église d'Éphèse qui avait perdu son premier amour, l'église de Thyatire, là, elle a l'amour de Dieu. Et Dieu le voit. Beaucoup d'œuvres donc dans cette église. Mais je crois que ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que le plus important, ce ne sont pas nos œuvres. Elles sont importantes, mais ce n'est pas le plus important. Vous savez, on peut être très occupé dans une église, et je pense que vous le savez. On peut être occupé à faire beaucoup de choses pour le Seigneur, et on peut même se charger de choses que le Seigneur ne nous a pas chargées. On peut se charger de choses qu'il ne nous a pas confiées, qu'il ne nous a pas demandé d'accomplir. La leçon qu'on peut tirer de cette lettre, c'est que avant de faire beaucoup d'œuvres pour le Seigneur, avant d'évangéliser, des œuvres qui sont bonnes, qui sont nécessaires, mais avant cela, il y a une œuvre plus importante. Ce qui compte aux yeux du Seigneur qui voit tout, eh bien, c'est que nous nous gardions purs, sans compromis, sans syncrétisme. Voilà où doit commencer notre fidélité au Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit dans son amour, il nous dit bien, « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux », verset 24. Le premier fardeau à garder qui nous a été donné par le Seigneur, c'est d'éviter absolument les péchés d'idolâtrie et de débauche, pratiqués par ces faux prophètes. Ces péchés qui étaient déjà condamnés pour l'église de Pergame. Éviter ces péchés, c'était la seule charge que les non-juifs devaient porter pour aller bien. Les non-juifs qui n'avaient pas été instruits dans la loi de Dieu, la seule charge, éviter la débauche et éviter l'idolâtrie. Et l'apôtre Paul le dit très clairement en Actes chapitre 15, versets 28 et 29. Alors, n'échangeons pas la vérité contre des fausses doctrines. Parce qu'il y a un danger. Échanger la vérité contre les fausses doctrines, accepter les compromis, eh bien, c'est prêter le flanc à l'ennemi, c'est se rendre vulnérable. Alors que, inversement, vouloir se garder pur est une protection. Sans pour autant laisser tomber les autres œuvres. Hein. Alors, ces autres œuvres, alors, avant de... oui, nous garder pur est une protection. La première lettre de Jean, chapitre 5, verset 18, dit ceci. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Individuellement, nous sommes appelés à nous garder, à ne pas faire de compromis. Alors, le nom Thyatire veut dire sacrifice perpétuel. Chaque nom a sa signification. Hein. Eh bien, Christ nous demande comme sacrifice des fruits dignes de la repentance. Avant toute autre œuvre, aussi bonne soit-elle. Sans pour autant les laisser tomber, hein, ces œuvres. Mais la première œuvre, c'est des fruits dignes de la repentance. Au verset 25, il nous dit « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Qu'est-ce que l'Église avait ? Je redis encore ces œuvres-là, verset 19. « Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Toute Église devrait désirer sérieusement que leurs dernières œuvres soient plus nombreuses que leurs premières, que les premières œuvres. La vie chrétienne, elle est faite de progrès en progrès. On ne stagne pas. On n'est pas appelé à stagner dans notre vie. Il n'y a que deux possibilités pour une église et aussi pour un chrétien. Soit on rétrograde si on n'avance pas, soit on monte, on avance, on fait pas de surplace. Et on compare la vie chrétienne, vous savez, à une escalade d'une montagne. On peut pas s'arrêter. Si on s'arrête, c'est redescendre. Mais on est invité à continuer l'escalade. Avec le Seigneur, bien sûr. L'église n'est pas faite pour stagner. Et si les chrétiens de Thyatire sont devenus plus sages et meilleurs, eh bien c'est à cause de leur persévérance, leur constance, et bien sûr la grâce de Dieu qui agissait dans l'Église. Ils avaient ce désir, cette constance, cette persévérance d'avancer avec le Seigneur. Alors peut-être vous vous dites, mais où trouver cette motivation pour se garder pur ? Non seulement pour se garder pur, mais aussi pour faire des choses pour le Seigneur, faire des œuvres pour le Seigneur, des bonnes œuvres, et bien sûr qu'il y a d'énormes besoins. Sans aller au bout du monde, il y a des besoins dans notre monde. Bien sûr, avec la guerre en Ukraine, mais aussi dans tout près de chez nous. Qu'est-ce qui va nous motiver à déjà la première œuvre nous garder pur et aussi à faire des œuvres pour le Seigneur? Eh bien, c'est la perspective de son retour qui est certain. Jésus revient. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de son retour. Est-ce que vous l'attendez fidèlement? Si oui, vous allez produire du fruit, un fruit qui vient de lui. Alors, voyons justement, pour nous encourager, quels sont les fruits que Dieu donne suite à la persévérance et à la fidélité. Troisième point, quels sont les fruits issus de la fidélité sans compromis? Eh bien, Jésus promet une récompense à celui qui aura persévéré jusqu'au bout. Et quelle est-elle cette récompense? Déjà au verset 23. Un verset qui peut être lu des deux côtés, hein, aussi bien de la part du côté obscur que du côté des chrétiens. Verset 23, c'est cette promesse qui s'applique non seulement aux incroyants, mais aussi aux croyants fidèles. « Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Ça vaut aussi bien pour les incroyants que pour nous croyants. Ce sont les œuvres du croyant fidèle qui vont prouver, qui vont montrer sa foi, qui vont prouver l'authenticité de sa foi, parce qu'il se met à l'œuvre pour le Seigneur. Le Seigneur qui a les yeux comme une flamme de feu, eh bien, il connaît toutes les œuvres que nous accomplissons pour lui. Aussi bien les œuvres collectives de l'Église que nos œuvres individuelles que tout le monde ne connaît pas. Toutes ces œuvres qui sont faites dans l'amour, dans la foi, pour reprendre les termes du verset 19, avec zèle, avec la patience, ces œuvres-là, il les mettra aussi en lumière. Il ne mettra pas seulement en lumière les mauvaises œuvres, mais il mettra aussi en lumière les bonnes œuvres. Avec au bout, eh bien, une juste rétribution, une récompense. Il nous rendra selon nos œuvres. Quelle est-elle cette récompense? Verset 27, elle s'applique à l'Église victorieuse et à chaque croyant. Le verset 27, c'est une citation du psaume 2, verset 9. Le psaume 2, verset 9 s'applique à Jésus. Ici, ça s'applique à l'Église. Je relis le psaume 2, verset 9 appliqué à Jésus. « Tu les briseras avec une verge de fer. » Tu les briseras comme le vase d'un potier. Là, ça s'applique à l'Église. Il s'agit des mêmes privilèges qui reviennent à Jésus lui-même que Dieu réserve, nous réserve à son Église. Ces privilèges qu'il a reçus de Dieu son Père. Et quels sont ces privilèges? C'est d'avoir autorité sur les nations. Il y aura un renversement complet de situation. la domination que Jézabel ou une frange de l'église de Thyatire voulait exercer avec arrogance sur l'église, eh bien cette domination, elle est promise à ceux qu'elle a opprimés. Ce sont les victimes de cette domination qui vont dominer. Il y aura un reversement. Voilà cette promesse donc de régner avec le Seigneur. Oui, le mal aura une fin. L'oppression des chrétiens aura une fin. Et que faire, que dire face à ceux qui ne veulent pas se repentir, qui se sont endurcis? Eh bien, face à ceux qui se sont endurcis, Jésus promet l'affermissement à ceux qui sont restés fidèles, qui veulent lui rester fidèles. Et là, vous voyez là, deux mots qui sont à l'opposé, mais qui pourtant vont nous, deux mots qui ont quand même un sens cousin, un sens qui est proche. Ceux qui ne veulent pas se repentir vont s'endurcir. Ceux qui veulent rester fidèles vont être affermis. Les incroyants vont être endurcis. Les croyants fidèles vont être affermis. Nous allons devenir plus forts en voulant rester fidèles à Jésus. Et c'est justement cette promesse, elle est d'affermissement, elle est pour ceux qui lui sont restés fidèles, pour qu'ils règnent avec lui. Ainsi, nous serons aptes à régner avec lui dans une position d'autorité et de fils, parce que nous avons voulu lui rester fidèles. Voilà les vrais vainqueurs. Que le Seigneur nous aide à rester fidèles à lui. Et c'est pas tout la récompense. Alors, non seulement c'est le Seigneur nous donnera autorité sur les nations. Alors, bien sûr, une autorité dans l'amour, une autorité dans la justice. Mais regardez ce qu'il promet. Il donnera à ceux qui auront persévéré l'étoile du matin. L'étoile du matin. Quelle récompense ! De même que dans les autres lettres, eh bien, la récompense suprême que Dieu nous promet, que Jésus nous promet, c'est sa personne, c'est le don de sa personne. L'étoile du matin, c'est lui, c'est Jésus. Dans le même livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 16, voilà ce que dit Jésus. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Jésus nous promet sa personne, la connaissance parfaite de sa personne. Et quand on réfléchit à cette image qui s'applique à Jésus, une étoile, elle brille, n'est-ce pas? Elle éclaire. Eh bien, cette étoile, déjà, pour nous, elle a déjà commencé à briller dans nos cœurs. Pour nous qui croyons, qui avons reçu Jésus dans notre cœur, dans la repentance et dans la foi, cru qu'il s'est sacrifié pour nous. Et s'il y en a parmi nous dont c'est pas encore le cas, eh bien, Dieu continue d'appeler et d'appeler. Cette étoile, elle a déjà commencé à briller dans nos cœurs, mais elle n'a pas fini de briller, et son éclat va aller croissant et croissant et croissant. Qui dit lumière dit discernement. De plus en plus, cette étoile du matin qui a commencé à régner dans nos cœurs, elle va nous donner du discernement pour discerner le vrai du faux, pour discerner le mensonge de la vérité. On en a besoin aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Internet, on est dans une société hyper médiatisée, on entend beaucoup d'informations qui parfois se contredisent. Alors on a besoin de discernement pour ne pas nous laisser séduire. Eh bien ce discernement, c'est Jésus lui-même qui nous le promet. Quand on regarde à Jésus, il va nous éclairer, il va nous donner cette lumière dont nous avons besoin. Cette lumière, eh bien, elle nous donne du discernement pour discerner le mensonge de la vérité, pour chasser l'esprit d'erreur, de l'erreur de l'Église, dans l'Église. Cet esprit, le discernement que Dieu nous donne, c'est aussi une protection contre les séductions et les manœuvres de Satan, et pour reconnaître les faux prophètes. Parce qu'il y en a. Alors, si quelqu'un se disant prophète vient vous annoncer une nouvelle révélation de la part de Dieu. Attention! Tout ce que nous avons besoin de connaître est révélé ici. la parole de Dieu. Tout ce que nous avons besoin de connaître est consigné dans sa parole. Il n'y a rien à y rajouter, ni rien à y retrancher. Une parole prophétique, elle ne contredit jamais ce que dit la Bible. Alors quand on entend « Dieu m'a dit que », on a besoin de discernement pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Et ça, il faut le chercher auprès de lui. Comme cette personne, et je l'avais entendu il y a longtemps, hein, je m'en rappelle, à qui quelqu'un est venu dire « Dieu m'a dit que tu devais te marier avec un tel ». Et la personne a coupé court. « Ah bon, mais à moi, il ne m'a rien dit ». Le Seigneur nous parle individuellement, parce qu'il est l'étoile du matin qui a commencé à briller dans nos cœurs. Alors, on n'a pas seulement besoin de connaissances intellectuelles. Bien sûr, c'est bien, on connaît notre Bible, et il faut, mais on a surtout besoin de révélation. De révélation de la part de celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Parce que il n'y a que par lui qu'on peut comprendre sa parole. On peut comprendre la parole de Dieu que lorsque Dieu nous a éclairés par son esprit. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a éclairés, c'est pas parce qu'on a été plus intelligents. C'est parce que Dieu nous a éclairés. Éclairés par Dieu, éclairés par l'Esprit de Christ et par sa parole. Psaume 119, verset 130, nous dit ceci. 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est la parole de Dieu, notre garde-fou. Alors oui, restons fidèles au Seigneur sans compromis pour avoir la victoire finale. Je vais prier. Seigneur, je te remercie encore parce que tu nous as donné, bien sûr, les dons dans ton Église. Tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin, mais par-dessus tout, tu nous as donné ta personne, Seigneur. Donne-nous d'être conscients, Seigneur, de qui tu es de plus en plus, pour que nous vivions, Seigneur, de ta personne, pour que, Seigneur, nous ayons les yeux de notre cœur éclairé par ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de discernement pour discerner le vrai du faux. Tu vois tout ce que nous entendons à la télé, à la radio, sur Internet. Seigneur, tu connais les manœuvres de Satan, mais c'est toi que nous devons connaître, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de nous garder purs, sans compromis, pour être plus forts, pour que tu nous affermisses, Seigneur, pour que... Seigneur, discerner le mensonge de la vérité. Et Seigneur, nous te remercions car tu es fidèle. Et garde-nous fidèles, Seigneur, jusqu'au bout. C'est par toi, Seigneur, que c'est possible. Par Jésus, ton Fils. Amen. Amen.